En air de vie, une émission proposée par le trio JFK sur Principe Actif. Une parole éclectique, locale, thématique, sociétale, environnementale. Lumière à l'échelle locale de l'actualité nationale, internationale.
Bonsoir, bienvenue sur Principe Actif, un air de vie, l'émission mensuelle sur l'environnement et l'initiative locale. Bonsoir Kevin.
Bonsoir Jérôme.
Bonsoir Frédéric.
Bonsoir Jérôme.
Encore un grand merci à Gonzalo pour la technique. Aujourd'hui, nous allons à nouveau parler des circuits courts, donc deuxième acte des circuits courts, qui s'inscrit, enfin une démarche, un thème qui s'inscrit vraiment dans l'actualité, n'est-ce pas Fred ?
Alors oui, dans l'actualité, mais avant d'aborder l'actualité chaude, je voulais juste revenir une petite minute sur notre première émission qui concernait la MAP. Je voulais faire un petit bonjour à tous les gens de la MAP qui nous ont accueillis, aussi bien les gens de l'association que les producteurs. Et notamment, en parlant de producteurs, je voulais faire une petite remise.
Un erratum.
Je voulais resituer Madame Zoutard, la productrice de pain. La ferme de Saint-Mamère qui se trouve à Buis-sur-Danville et non pas à Plessis-Grohan, comme je l'ai dit dans la première émission. À Plessis-Grohan, vous pourrez trouver Biocerf. C'est une minoterie bio qui fait de la farine. Donc, si on veut limiter notre empreinte écologique, on peut, je pense, faire les deux, Plessis-Grohan, Buis-sur-Danville. Je pense que c'est pas mal. Et puis voilà, c'est une fois que les choses sont dites, on peut revenir sur l'actualité.
Exactement. Donc, avant de nous rendre à Cogé, alors, des sujets d'actualité, messieurs ?
Oui, des sujets d'actualité sur l'intérêt de la filière courte. Depuis notre dernière émission, il y en a eu pas mal. Le 8 février dernier, le jour de notre émission, c'était les premiers frémissements de l'affaire Findus avec les chevaux.
La viande de cheval.
Oui, alors c'est garanti sans sel. Et qu'on a trouvé dans les lasagnes Findus. Mmh. Et je pense qu'en effet, la filière courte est un bon moyen de répondre à ce genre de petits désagréments qui ne permettent pas de savoir qu'est-ce qu'on trouve réellement dans nos assiettes.
Puis il y a eu un deuxième épisode qui a alimenté la psychose, c'est le retour des farines animales.
Oui, les farines animales, pourquoi en fait, je me souviens même plus.
Pour nourrir tout le monde en fait.
Oui, voilà.
Pour les poissons,
c'est
les porcs, voilà.
Qui réautorise.
Et à partir du mois de juin, donc les producteurs, les éleveurs de cochons, de poissons, etc., pourront donner à leurs animaux des farines animales. Mais le poisson, est-ce qu'il est vraiment omnivore ? Parce qu'on a un ministre ou un secrétaire d'État qui nous a fait des déclarations là-dessus. C'était pas très clair. Moi, j'ai pas fait bio à l'école, donc.
Alors moi j'ai fait bio à l'école, j'ai même fait bio après, enfin j'ai fait bio toute ma vie et je continue, pour d'autres bio peut-être. Et non, je ne pense pas que le poisson puisse se qualifier d'omnivore, parce qu'omnivore c'est manger comme l'homme et le poisson ne mange pas comme l'homme. Et derrière ça, enfin, ils ont quand même un discours assez rassurant par rapport aux farines animales, parce qu'ils nous disent quand même clairement qu'il n'y aura plus de problème, puisque nous ne donnerons pas de farine animale de poule au poulet, nous ne donnerons pas de farine animale... De poisson au poisson.
Pour éviter le phénomène du cannibalisme.
Voilà, et donc tout est résolu, comme si, enfin, je pense pas que le problème qu'il y a eu autour de la maladie de Creutzfeldt-Jakob était très lié au fait que les vaches mangeaient de la farine animale de vache. Mais je pense que c'est plus lié à tout ce qu'on peut trouver dans ce type de produit, avec en broyant et en. Oui, en broyant des squelettes, enfin, je ne sais plus comment exactement ils obtiennent la farine. Je ne pense pas que ce soit le meilleur moyen d'obtenir une alimentation saine pour les animaux qu'on va manger ensuite.
Ah oui, là on est vraiment très loin de l'esprit de la filière courte et puis des producteurs qui nourrissent eux-mêmes leurs animaux avec les produits du coin.
Cela dit, les agriculteurs français, les pisciculteurs français, tout de suite ont pris position, parce qu'ils ont dit non à la farine animale.
C'est vrai ça ?
Exactement. Ah ouais. Bon, ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'il n'y a que 15% des poissons... qui sont consommés en France, qui sont produits en France. Hein. Voilà. Enfin, les 85 autres pourcents qui ont de la chapelure autour des nageoires.
Ils viennent dans les coins.
Voilà.
D'autres parts, ouais.
Alors, d'autres sujets, moi je vous en propose d'autres. Puisqu'on va rester dans le poisson.
Allez.
Voilà. Bon,
c'est vendredi.
Voilà, exactement. Les Américains sont préoccupés de ce qu'ils avaient dans leurs assiettes. On a un Fred qui est en forme. Et donc, il y a quelques ONG qui ont fait des analyses de poissons aux États-Unis. Ils sont aperçus que... Bah,
sur la véracité du poisson. Là,
voilà, c'était pas toujours le cas. Alors, il y a un article, hein, notamment dans Le Monde, qui a dit bah, voilà, l'arnaque est multiforme. Elle englobe des poissons d'élevage pseudo-sauvages et des variétés surexploitées, voire en péril, que l'on fait passer pour d'autres dont la survie n'est pas menacée. Plein de choses comme ça. Du thon tropical trempé dans un bain rouge pour le faire passer pour son congénère plus coloré. Plein de choses comme ça.
Surtout plus cher.
On ne sait plus ce qu'on mange, en fait.
Le problème, c'est qu'aux États-Unis, pour se rendre compte de tout ça, il a fallu qu'ils fassent des tests ADN. Et c'est pas accessible à tout le monde.
Oui, c'est pas donné pour
ça. Bon, n'en jetons plus. On ne va plus en jeter. Là, on va aller à Cogé après.
Et bah, juste avant, moi, j'ai quand même fait une dernière page d'actualité. Je vous parlais en fait de mon après-midi où j'ai participé à une journée organisée par l'association qui s'appelle Permis pour l'avenir. Et c'est une association en fait qui permet aux jeunes, aux RMistes, etc., d'accéder en fait à un permis moins cher. Et ils ont fait une journée de sensibilisation et ils ont fait découvrir la voiture électrique. J'ai pu moi-même essayer la voiture électrique parce que j'ai pu en bénéficier car j'ai pu accéder à avoir le permis grâce à eux. J'ai été invité et je peux vous donner mes premiers commentaires, bon, sans vous citer forcément la marque de la voiture, mais moi j'ai trouvé ça sensationnel. Un plaisir. Alors le truc qui est vraiment surprenant, c'est que quand on met le contact dans la voiture, bah, on s'attend au bruit, à un bruit de moteur. En fait, on ne peut pas s'empêcher, on attend le déclic et en fait il n'y a rien qui se passe.
Donc tu n'es pas obligé de mettre le volume à fond pour écouter un moment de musique.
Tu as juste un truc, t'entends tes pneus rouler sur l'asphalte. T'as une sensation, et alors le truc qui est dingue, c'est quand t'appuies sur l'accélérateur, c'est vraiment une puissance continue, c'est vraiment pas brusque, c'est vraiment particulier. Et le truc qui est marrant, c'est qu'il voulait faire ça, essayer ça sur toute la journée, et il n'a pas pu. Pourquoi ? Parce que cette voiture-là, elle se recharge en une demi-heure, mais il faut des prises rapides pour que ça soit rechargé en une demi-heure, sinon c'est 8 heures de chargement pour une prise électrique normale. Et en fait, sur Évreux, il n'y a aucun lieu où on peut recharger aujourd'hui une voiture électrique. C'est pas du tout un réseau qui est développé dans la région.
Alors, la voiture électrique, c'est vrai. Enfin, c'est un sujet intéressant parce que c'est présenté parfois comme l'avenir de l'automobile. Je pense que c'est un créneau qui concerne vraiment que les déplacements courts en ville parce que c'est une autonomie qui est très courte.
Une voiture citadine.
Et après, il y a tout le problème des batteries, leur recyclage. Là, je parlais avec un ami qui a été se renseigner chez un constructeur français au Losange et pour l'achat d'une voiture et on est obligé de louer la batterie de manière mensuelle et cette batterie va être interchangeable et donc en fin de compte pour avoir l'autonomie les batteries sont échangées donc ça fait que pour un véhicule il va falloir beaucoup de batteries et la batterie est en posant encore problème je pense dans ce type de véhicule. Je ne sais pas si c'est une solution
Donc ça reste pour des trajets courts. On a des circuits électriques pour des trajets courts. Et donc, on arrive au circuit court.
Et le circuit
court. C'est pas mal, ça. Alors, on va parler de Cogé. Ouais. C'est pas loin, Cogé ?
Non, c'est pas très loin, à côté de chez nous.
Qu'est-ce qui se passe là-bas, Kevin ?
Eh bien, on a découvert une agricultrice qui s'est mise à produire du chèvre en Normandie. Et c'est parti.
Le truc, c'est que nous, en fait, on est sur Principe Actif.
Ouais.
Et on a une émission qui est chaque deuxième vendredi du mois, de 18h30 à 19h30, qui s'appelle Un air de vie. Notre prochain sujet, c'est les circuits courts. Justement, montrer que y a moyen de faire différemment.
Ouais, mais je le vois pas.
Ouais, tu comptes pas.
Parce que pour moi, c'est normal. Enfin, ouais. Voilà, m'occuper de mes chèvres, faire mes fromages, commercialiser, c'est mon rythme de vie. Je me vois pas sans. À la ferme. Quand je leur dis faut venir voir la traite des chèvres, faut venir voir les mises bas, parce que là je suis en, donc hors production, j'ai une petite pause dans l'année parce que je respecte le cycle naturel de la chèvre. Voilà, il y a quelque chose de naturel, c'est pour ça qu'en ce moment elles ont pas de lait, elles sont juste gestantes, donc pleines, elles attendent un chevreau.
Voilà, donc c'est ça l'idée pour obtenir quoi, pour une nouvelle production
lactation,
de lait.
Voilà, une production de lait, donc ça s'appelle la lactation et la lactation dure 10 mois. Donc en fait tous les ans, voilà, on a 10 mois de production laitière. Et on a 2 mois de tarissement pour un repos et de l'animal. Et aussi une petite pause pour faire comprendre aussi aux consommateurs qu'on n'a pas le fromage de chèvre toute l'année.
De retrouver en fait un savoir-faire un peu en retour aux sources, tu t'y retrouves.
Ouais. Et puis moi je me dis aussi que les consommateurs en fait ils oublient que chaque chose a un cycle. Par exemple, moi quand je vois sur les marchés des fraises au mois de décembre, ça me fait un peu halluciner.
Oui,
quoi.
Voilà, oui, oui. Donc les gens, ou les tomates,
voilà,
ou etc.
Les gens ils perdent en fait le cycle naturel des choses et ils veulent tout le temps. Et moi je leur fais comprendre qu'on peut pas avoir tout le temps. Et puis bah il y a un animal aussi, hein. c'est ce que j'explique aussi, c'est aussi mes collègues de travail.
Voilà.
Voilà, c'est pour ça que je leur ai attribué tout un prénom.
Donc justement là en fait on est dans le hasard, chacune un prénom. Mais alors, ouais. C'est-à-dire, par exemple là, sans voir les numéros, tu peux les reconnaître?
Ouais.
C'est vrai?
Ouais, bon il y a quelques-unes que je me plante, mais bon, celle-ci elle est blanche, elle est facile. Bon là c'est Fuchsia, okay. À côté on a Flandre, après c'est Fidji, là c'est Frida. Là c'est Fémur, après
c'est
Floride.
C'est que des prénoms en F.
Ouais, alors elles sont nées en 2010, donc c'est la même attribution que les chiens et chats, donc c'est à l'année.
Ouais. Ok.
Donc là c'est les F. Là elles sont nées en 2011, donc c'est mes G. Et celles-ci elles sont nées en 2012, donc c'est mes H.
Ok, d'accord.
Et je fais un suivi descendance. En fait, par exemple, Fuchsia, c'est ma famille à la base, ma famille c'est couleur. Donc elle c'était Fuchsia, sa fille qui est blanche là-bas. C'est Grisette, parce que gris je trouvais ça un peu fade, donc je l'ai agenté. En A, j'ai pas gardé sa fille, mais sinon c'était Havane, couleur Havane.
Ouais.
Donc voilà, au moins j'ai un suivi descendance de mes animaux. Bon après c'est un peu, ça peut paraître taré, mais voilà, c'est ce que j'explique.
Non,
bah
c'est
pas que des animaux d'élevage.
Écoutez Principe Actif, bienvenue dans Un Art de Vie, la mensuelle sur l'environnement, deuxième vendredi du mois. Et donc on est allé à Cogé, vous l'avez compris, rencontrer une personne, Alexandra, qui élève donc des chèvres depuis quelques années et qui a une passion, qui a décidé de s'investir totalement et apparemment ça marche. Kevin, bon, t'es en immersion, comme on dit, t'es revenu les bottes crottées, tu sens le bouc, raconte-nous.
Est-ce que je sens le bouc? Non, même pas. Bah écoute, j'ai fait la rencontre d'une agricultrice super sympathique, j'étais dans son lieu de travail, et on a eu une superbe discussion, et elle s'est exprimée, on peut dire, en fait à cœur ouvert, elle a raconté sa vie, ses débuts, comment elle faisait son fromage, c'était super instructif, et d'ailleurs je vous propose qu'elle se présente elle-même.
Donc justement, alors, est-ce que tu pourrais te présenter aux auditeurs? Où est-ce qu'on est ici, Alexandra?
Voilà.
Où se trouve-t-on?
Alors, donc Alexandra Beaucousin, installé depuis juillet 2010. On est à Cogé, donc près d'Évreux. J'ai repris la ferme de mon père.
Donc Cogé, juste pour dire où est-ce qu'on est, en fait, Cogé, il faut prendre la direction de l'hôpital et...
Et après, bah, Cogé, Claville, quoi. Ça, ouais, c'est Claville. C'est à côté, quoi. Route de Beaumont, quoi. Et donc j'ai repris la ferme de mon père. Il y avait des céréales et un petit troupeau de moutons, donc on a arrêté les moutons. Et moi, mon projet, c'était les caprins, donc élevage de chèvres avec transformation fromagère. Donc d'où m'est venue cette idée, c'est un peu farfelu, mais...
C'était suite à tes études?
Non, enfin, à la base, c'est des vacances chez mon cousin qui ont eu lieu quand j'avais 13 ans. Donc ça remonte en 93 quand même. Et il travaillait dans un élevage de chèvres. J'ai passé toutes mes vacances avec lui, sachant qu'à la base, j'étais pas partie... Enfin, on était partis le voir. Donc après, on avait...
T'étais pas partie pour bosser.
Non, j'étais pas partie pour bosser. Mais voilà, ça m'a tellement plu. Donc le matin, j'allais faire la traite avec lui. L'après-midi, on faisait des balades, en fait, parce que c'était en alpage. Et bah quand je suis revenue de mes vacances avec mon cousin, j'ai dit à mes parents, si un jour je peux reprendre la ferme, il y aura des chèvres, quoi.
Parce que je
me vois pas sans chèvres. Et puis après, à l'âge de 15 ans, bon, les études c'était moyen pour moi, enfin, voilà, j'étais une élève moyenne. Et je me suis dirigée dans l'agriculture où là j'avais vraiment un intérêt et là je me suis mise à bosser. On a vu que j'avais des capacités à travailler quand même. Ce qu'avant je ne vous avais pas révélé.
De l'engouement, de
voilà.
Motivation.
Et donc après j'ai fait BEP, BAC, BTS en agriculture. Donc après j'ai bossé 10 ans en élevage caprin et en transformation.
Élevage caprin c'est
chèvre.
Ça veut dire chèvre.
Voilà,
caprin c'est chèvre.
Voilà, c'est comme les bovins.
Enfin, ok, d'accord. Toi,
bovins, okay. Vaches, c'est les espèces.
Ok, caprin, chèvre.
Voilà.
Ok,
d'accord. Après, il y a plein, quoi. Y a plein
c'est
de trucs.
Ça, ouais,
les ovins, c'est les moutons. Les chevaux, c'est équins, les chevaux. Enfin voilà, ils ont chacun leurs espèces, quoi.
Et donc, quand tu t'es lancé dans l'aventure, donc en 2010, tes parents, ils ont dit quoi?
Enfin, ça a commencé un petit peu avant, quand même. Ça a commencé en 2008. En août 2008, j'ai commencé à bosser sur mon projet, donc ça a mis un peu de temps. Et ils avaient un peu peur, parce qu'ils s'est dit, les gens, ils vont pas venir à la ferme, quoi.
Ouais.
Ils venaient pas chez nous, ils vont pas venir chez toi.
Ouais.
Donc je leur ai expliqué que les gens ils revenaient en fait aux sources et que justement découvrir un élevage où tout se fait sur la ferme, et ça maintenant ça les intéresse beaucoup parce qu'ils savent ce qu'ils consomment.
Voilà, c'est le changement. Parce qu'en fait justement tes parents eux ils étaient à la ferme.
Ouais, c'était plus ou moins des céréales, quoi.
Et eux ils ont connu justement la désaffection des gens qui vont à la ferme. Parce que peut-être qu'avant il y avait un quotidien où les gens venaient chercher
leurs œufs. Ouais, quand il y avait les vaches têtières, à la rigueur, quand il y avait les vaches têtières, ils avaient un peu plus de personnes qui venaient. Bon, ma mère elle avait un petit peu de volaille, mais c'était pas. Je dirais pas que c'était pas quotidien, quoi.
Ouais, cherchait pas à rendre un service tout le temps.
Non,
quoi.
Non. Voilà, c'était les gens qui étaient au courant, ils venaient et puis c'est tout, quoi. Elle a pas développé, quoi.
Ouais.
Alors que moi, c'était vraiment mon projet, quoi. C'était ma passion, mes chèvres. Et derrière, c'était aussi faire connaître aux gens qu'un métier, ça pouvait être aussi une passion.
Oui, bien sûr. Ouais, ça, c'est beau, ça. Des chèvres en train de manger leur petit-déj.
Alors, Kevin, on l'a compris, Alexandra, elle s'est pas improvisée. Donc, cultivatrice ou quoi que ce soit, agricultrice ou n'importe
exactement,
quoi.
Exactement, voilà.
Enfin, il y a un cursus, il y a un BTS, il y a une passion,
il
toute jeune, etc.
Aussi,
il y a la famille. Voilà, c'est quand même intéressant. C'est une autre philosophie.
Voilà, c'est notre approche du monde. C'est une forme de sensibilité, je pense, parce que, comme tu le dis, depuis la naissance, elle est là-dedans. Mais le truc qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, on se rend compte par son activité que ces types de projets sont possibles. Et le fait d'arriver à faire des fromages de chèvre en Normandie, c'est quand même plutôt, je trouve ça original. Et
oui, et puis ce qui apparaît, c'est que c'est aussi la question de la femme. Rappelons qu'on est quand même, c'est la journée de la femme.
Ouais, non, en plus,
c'est la question de la femme quand même.
C'est la journée de la femme. Et tu sais, en plus, je suis désolé pour elle, mais en fait, j'ai oublié plein d'informations. Mais en fait, elle m'a dit plein de choses. Et tu sais, elle a gagné des prix en tant que meilleure agricultrice. Et en plus, même sur le coup, je pensais qu'elle aurait mal pris, genre, parce que ça aurait été un peu, c'est un peu macho de dire, bah tiens, parce que t'es une femme, toi t'as un prix spécial. Et elle me disait, non, mais pas du tout, pas du tout. Elle était même heureuse d'avoir ça parce qu'elle disait, justement, la femme n'est pas reconnue dans le milieu agricole. Et souvent, d'ailleurs, la femme, elle est toujours à côté. Et d'ailleurs, il y a toujours des problèmes de retraite au niveau de la femme parce qu'elle bosse tout le temps.
Voilà, et dans son discours, je trouve qu'aussi on entend un changement de génération, c'est-à-dire elle reprend l'entreprise de ses parents et poursuit derrière, mais avec derrière un projet différent,
avec un enthousiasme et un optimisme, parce que ce que n'ont pas fait ses parents, elle le fait aujourd'hui parce qu'elle y croit. Elle croit à une chose que ses parents ne croyaient plus vraiment. En fait, elle laissait faire les choses un peu, on va dire. Le public qui venait à la ferme, c'était les gens qui savaient, qui étaient connaisseurs. Et alors qu'aujourd'hui, bah, elle prouve que ce type d'activité est possible.
Bah, ce qui était connaisseur, et aussi, je pense qu'il y avait aussi une histoire. Les gens avant avaient l'habitude de venir à la ferme. Je pense que ce déplacement-là, il a été complètement abandonné dans les années 70-80 avec l'industrialisation de l'agriculture. Bah, et ouais. les gens n'allaient plus à la ferme.
Dans les supermarchés,
les gens n'allaient
ouais.
plus à la ferme parce que la ferme n'était plus un endroit où on allait, point.
Mais c'est ça qui est marrant, parce que pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, Jérôme, où tu parlais des farines animales qui allaient revenir, etc., on voit que dans le processus en fait, de production de nourriture, et en plus avec la viande de cheval dans les lasagnes, on ne sait plus d'où viennent les choses, etc. Et elle va nous l'expliquer. Finalement, elle fait des fromages au lait cru, mais on se rend compte qu'elle a toutes les qualités d'hygiène comme dans les produits industriels, et qu'en plus, bah, la nourriture, bah, en tant que consommateur, on sait d'où ça vient.
Alors, je voudrais quand même rappeler que ça se passe près de chez nous, à Cogé. C'est quoi, 12 km, 14 km d'Evreux ?
C'est ça.
Voilà, ça se passe près de chez nous.
Là, on est au milieu des chèvres. En oui. train de manger leur petit-déj.
Oui.
Et juste à côté, en fait, c'est le bâtiment que je vois, c'est ce que tu appelles la fromagerie.
Voilà, c'est le laboratoire, en fait, de fromagerie.
Le laboratoire.
Voilà.
Alors,
ouais,
tu dis laboratoire, parce que ça fait un peu scientifique comme terme, mais
on est obligé,
c'est ça,
en fait.
C'est de la recherche,
ouais.
en fait.
Ouais. Ouais. C'est de la recherche, enfin, c'est plus de la transformation, mais derrière, on a quand même un suivi sur tout ce qu'on fait, quoi. On sait combien on transforme de litres de lait par jour. Ces litres de lait, on sait combien on fait de fromage. Et puis, ben, moi, je fais des analyses.
Ça rationalise, quoi.
Ouais. Ouais. Puis, tous les deux mois, je fais des analyses sur le lait et mes fromages pour voir si un jour, il peut y avoir un souci. Donc, c'est pour avoir un suivi de ma production.
Okay,
on n'est pas obligé de le faire. Hein. Mais moi, vis-à-vis de mes clients, voilà, c'est un respect que j'ai envers eux. Et que si un jour, il y a un souci, je leur dis, voilà, moi, j'ai fait ça, voilà. Enfin, pour avoir des preuves, quoi. Si un jour, il m'arrive quelque chose, voilà, j'ai des preuves comme quoi j'ai un suivi de mes produits.
Bien sûr. Ok, d'accord. Alors justement, au niveau du suivi, parce que justement ton produit, à mon avis, commence à la source, donc déjà dans ton choix de sélection d'espèces,
ouais. Donc, ouais, c'est...
la nourriture,
ouais.
Et ainsi de suite. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur...
Alors j'ai choisi les chèvres, donc là elles sont de race alpine chamoisée, donc là elles sont marron et elles ont un trait noir sur le dos.
C'est l'espèce de chèvre que tu avais vu quand tu étais petite.
Ouais, enfin, c'est la race. Ouais.
C'est la race.
Ouais. Race de chèvre, donc...
Tu peux dire une différence entre espèce et race ?
Bah, espèce, en fait, c'est la catégorie d'animal. Donc le caprin et race, c'est alpine chamoisée. Donc là, c'est les marrons. Sinon, il y a des sanennes, des poids de vigne. Enfin, voilà. Espèce, c'est chaque race. Pardon. Alors, race, c'est chaque différence dans l'espèce. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est comme, enfin, je sais pas moi si je prends comme explication. L'espèce, c'est la salade. Et dans la salade, t'as différentes salades.
Ok, d'accord.
Voilà, frisée, la
romaine,
la scarole,
la
machin,
laitue,
hein.
etc.
Voilà.
Ok, c'est
tu
clair.
Me comprends
ouais,
voilà.
Compris, super.
Ouais. Bon, mais je fais un rapprochement, c'est plus simple. Donc moi, la race, donc, c'est alpine chamoisée. Donc elles sont assez rustiques et elles s'adaptent à notre climat, qui est un peu plus humide.
Voilà, donc rustique, c'est parce qu'en fait, il y a des races modernes.
Bah, il y a des races qui sont plus fragiles, on va dire. Les blanches, par exemple, elles sont très productives, donc elles sont plus faibles par rapport à l'environnement qui les entoure.
Okay,
donc après, là, il faut faire attention. Donc moi, j'ai pris une rustique parce que je savais que j'étais dans une région où l'humidité, elle est là. Et,
elle est quand même bien présente.
Et que mes chèvres, elles s'adaptent bien. Enfin, elles sont cool, enfin, elles sont bien adaptées. Et après, j'ai une alimentation qui est plus ou moins... Enfin, que saine. Elles consomment que des produits... issu de la ferme. Donc le foin, il est fait sur la ferme, sur mes parcelles.
Ok.
Donc là, on cultive de la luzerne, parce que c'est pas n'importe quel foin.
Alors c'est toi qui cultives ouais. ou c'est tes parents
non,
ou...
c'est mon père et moi, quoi.
Ok,
voilà.
D'accord.
Mon père et moi. Donc je monte sur le tracteur de temps en temps.
Voilà.
J'adore ça, enfin, ça me plaît.
Ouais.
C'est mon truc, quoi. Et donc c'est du foin de luzerne qu'elle consomme. Ensuite, elles ont des céréales. Bon, là, en ce moment, elles sont en tarissement, donc elles sont restreintes en alimentation. Mais céréales, donc en pleine production, elles ont de l'orge qu'on aplatit nous-mêmes pour une meilleure digestibilité. Donc, en fait, c'est pour une production plus rapide. En fait, elles n'ont pas besoin de tout décortiquer à l'intérieur de leur estomac.
Elles consomment plus rapidement
voilà,
le
donc,
produit. Hein. D'accord.
C'est produit pour produire un petit peu plus. Voilà. Okay. C'est juste une facilité. Hein. Et après, elles ont des pois concassés, pareil qu'on produit sur la ferme. Et après, bah, elles ont, toi, fan de pois. Donc, en gros, c'est les résidus paille du pois qu'elles consomment aussi. Enfin,
tout ce qui est les chefs par exemple, on peut trouver.
Bon, Kevin, on voit que c'est pas parce qu'on fait de la production locale, etc., qu'il n'y a pas d'hygiène, il n'y a pas de respect des normes, etc.
Mais ça, c'est le truc le plus dingue. C'est que finalement, on se rend compte qu'il y a souvent eu des problèmes. Donc, les gens, ils ont peur de la listeria, ou etc. Et quand il y a ces problèmes-là dans les supermarchés, enfin, dans les supermarchés, dans la grande consommation, bah, il faut rappeler tous les lots. Mais c'est seulement après coup. Alors qu'elle-même, en tant que productrice, elle a une conscience, en fait, de son processus, de sa propre production, d'un esprit de qualité, et elle fait elle-même ses analyses. Ce qui fait qu'en fait, on pourrait croire que ce serait plus dangereux parce qu'elle fait des fromages de lait cru, etc. Et elle fait ses analyses de lait. Elle a une sécurité. Et en plus, c'est même pas obligatoire. C'est pour ça qu'il y a vraiment un avantage à aller voir où est-ce qu'on achète les produits, prendre conscience de qu'est-ce que c'est qu'un produit et en fait comprendre ce que c'est. Quoi.
Et là, quand on parle d'alimentation, voilà, là, on a entendu la chèvre. On sait ce qu'elle mange. Quoi. C'est.
Oui, voilà.
Ce qui intéresse, c'est que donc, Alexandra produit elle-même aussi la nourriture des chèvres. Voilà. Elle est capable de garantir, enfin d'intervenir,
elle
de justifier.
Prouver, elle a les preuves. Elle a
voilà,
les preuves.
De justifier ce qui rentre dans la bouche de la chèvre. Pardon, j'avais pas plus loin, mais.
Non, mais c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et surtout, elle va même éviter après de En fait, il ne peut pas exister le fait qu'elle balance comme ça sur le marché des fromages qui seront de mauvaise qualité, mais intrinsèque. Je parle de qualité pas gustative, hein, je parle de problèmes de bactériologiques. Ce n'est pas possible. Oui, alors qu'on est pourtant les bottes dans la boue.
Alors,
hein. On
Fred,
est loin de la vache qui rit. Hein.
Docteur Fred.
On a vraiment l'impression d'une production maîtrisée, c'est-à-dire aussi bien à travers la maîtrise de l'alimentation du fait de sa production, et puis la maîtrise après du produit lait, où elle va le... l'analyser et je pense qu'elle a le même regard après sur l'évolution pour le fromage et tout ça. Enfin, je pense qu'on ressent quand même un gage de sérieux dans sa démarche.
C'est exactement ça, c'est du sérieux.
C'est du sérieux. Alors, on va juste, toujours dans cet aspect filière courte, on a été chercher un groupe local, un groupe... ça a été aussi une belle découverte, ça, d'aller chercher un petit peu des morceaux de groupe hébroïcien.
D'ailleurs, j'en profite pour dire que la musique que vous avez entendue tout à l'heure était une musique jouée par Jean-Louis, JL Blues, qui est le chanteur-guitariste du groupe actuel Blue Setting Sun. Et c'est sur cette musique-là que j'ai fait le montage tout à l'heure.
Et donc, Fred. Tu nous as trouvé, Fred, alors ?
Alors nous avons trouvé, Jérôme.
Ouais, très difficilement, parce qu'il n'y a pas de disque.
Voilà, on a été chercher et on a trouvé un morceau du Yudaki Juk Band. Alors
c'est dur à dire, hein ?
C'est pas facile pour moi.
Qui avait fait un très beau concert lors de la dernière édition du Festival Rock.
She's calling yourself. She's suffering. Words of men. Do you know what happened next? When all things are going to die. Oh,
Écoutez Principe Actif 102.4, bienvenue dans un air de vie, la mensuelle sur l'environnement et les initiatives locales. On est parti à Cogé. Qu'est-ce qui se passe à Cogé?
Bah écoute, on a rencontré la biquette cogéenne.
La biquette cogéenne.
La biquette cogéenne,
ouais. Donc on a écouté Alexandra, passionnée de chèvres.
Oui, et elle nous a aussi parlé un petit peu de la différence avec la production industrielle.
Bah on y va.
Voilà. Est-ce qu'on peut dire à l'auditeur, est-ce qu'il y a d'autres types de productions? Par exemple, on peut trouver dans le commerce ou dans les supermarchés à Évreux des tibili, des fromages frais, etc.
Ouais. Là,
je pense que c'est fait aussi par des chefs, mais qu'est-ce qu'elles mangent? Elles mangent peut-être d'autres choses, du soja ou des produits...
Souvent, elles ont... Donc, c'est plus intensif parce que en fait, ça passe par des laiteries. Donc, le producteur, des fois, ne fait pas forcément son fromage lui-même. Il envoie son lait à une laiterie. Et souvent, donc, c'est plus intensif, donc c'est la production laitière. Donc les chèvres, elles ont des fois du maïs sans silage, donc acidité du lait, donc arôme moyen, soja, donc le soja c'est pas terrible parce que OGM, enfin machin, voilà. Et après il y a aussi les aliments production laitière, et des fois on sait pas tout ce qu'il y a à l'intérieur l'aliment.
En fait c'est des sortes de granules qui sont distribuées.
Voilà. On dit bah c'est l'aliment production,
c'est très bon pour...
Il y a quoi dedans? Bon, il y a un peu de ça, un peu de ça, enfin voilà, c'est une sauce bizarre, et on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Donc moi, je ne voulais pas de ça.
Voilà, ça c'est fou, c'est que même les agriculteurs ne savent pas trop des fois ce qu'ils donnent quand ils prennent des produits comme
bah,
ça.
Non, parce qu'il y en a, ils ne maîtrisent pas en fait, tout sur l'élevage, donc c'est bien alimentation, reproduction, la mise bas, tout ça, ils ne maîtrisent pas tout. Donc ils ne savent pas toujours le besoin de la chèvre et ils sont conseillés par des techniciens. Et les techniciens leur disent, ah oui, mais le mieux pour pas que vous ayez de soucis, c'est l'aliment production.
Ouais, voilà, okay.
Il y a de la fibre, il y a machin, c'est bon pour la chèvre.
C'est fait, leur satisfaction après c'est de remplir le cahier des charges qu'on leur donne.
Voilà.
Et moi
je suis pas du tout comme ça, j'aime bien gérer les choses. Et c'est ce qui est, enfin cette alimentation m'est gagnante.
On est quand même dans un super manga qui est quand même assez...
Alors oui, moi je rebondis sur ce qu'a dit sur l'alimentation de ces animaux avec ces sacs de nourriture toutes préparées. Il y a une petite vidéo sur le site rue 89 Planète où ils sont allés marcher dans les rues du salon de l'agriculture et ils ont récupéré une étiquette sur un sac d'alimentation pour les vaches. Et puis après, ils sont allés interroger le responsable de la filière viande bovine pour savoir s'il y avait de l'alimentation OGM dans l'alimentation des vaches françaises. Le monsieur, il semble-t-il en toute honnêteté, répond ben non, il n'y en a pas puisqu'on ne produit pas d'OGM en France. Donc nos nos animaux ne sont pas nourris avec des OGM et quand ils sortent l'étiquette du produit, le soja contenu dans ce produit est bien sûr génétiquement modifié. Et ensuite, ils rencontrent le responsable de la filière porcine qui explique gentiment que bah oui, ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire actuellement, s'ils veulent donner du soja en alimentation à leurs animaux, bah, c'est forcément du soja OGM. Ça ne veut pas dire que ça pose problème, ça ne veut pas dire qu'il y a un danger, ça veut pas dire...
Mais le marrant dans ton histoire, c'est que le responsable, il n'y croyait même pas à ce que lui disait le journaliste en disant qu'il mangeait des OGM.
Ce qui est amusant, c'est que, enfin, il faut voir la vidéo, c'est que même après lui avoir montré l'étiquette du produit qui avait été ramassé sur le salon, ce monsieur continuait à dire « bah non, c'est pas possible, c'est pas possible ». Alors que finalement, ça semble une alimentation tout à fait courante dans ce type d'élevage.
Alors ce qu'Alexandra, elle nous explique, c'est que passer dans un système industriel, c'est une contrainte. Parce qu'aujourd'hui, elle a la ressource, elle a l'alimentation à portée de main, parce qu'elle cultive ce qu'il faut, enfin les végétaux, ce qu'il faut pour nourrir ses chèvres. Alors que si elle devait acheter, si elle devait fournir toute son alimentation, ce serait réellement une contrainte d'organisation et de coût.
Oui, juste pour rebondir là-dessus, par rapport à ce qu'elle explique, est-ce qu'à un moment, on ne peut pas se poser la question si les animaux d'élevage en France ne mangent pas des produits tout préparés, un petit peu comme les lasagnes Findus, quoi. C'est que finalement, est-ce qu'on sait vraiment ce qu'il y a dans leur assiette?
Bah, c'est ce qu'elle a dit. Hein.
Voilà,
c'est,
oui.
C'est ce qu'elle dit, tout simplement. Mais justement, après, quand on voit des gens comme ça qui font tel type d'activité, on se demande, c'est un peu David contre Goliath, est-ce qu'on peut exister face à l'adversité et face à des process qui sont beaucoup plus gros beaucoup plus gros que nous, et comment ce type de projet, justement, c'est ce qu'elle va nous dire, comment ce type de projet peut exister de manière locale.
Comment arriver à cultiver sa différence ?
Pour parler de ton projet, justement, parce que là, on est quand même dans un superbe hangar qui est quand même assez
bâtiment
grand.
Un bâtiment d'élevage,
pas un hangar, garde-avion et tout. Et donc, je pense quand même que ça a dû avoir un coût, ton projet, etc. Ça doit être assez onéreux, tu as dû avoir les aides des banques. Mais finalement, tu te retrouves.
Un projet, déjà, ça se monte pas comme ça sur une idée. Ça se monte papier, réflexion, point positif, point négatif, vie professionnelle, vie privée. Enfin, moi, j'ai pensé à pas mal de choses. Et ensuite, on monte une première étude économique où on dit c'est viable ou c'est pas viable. Parce que des fois, il y a des études qui sont pas viables. Donc là, moi, c'était viable.
Non, mais justement, alors, c'est ça que j'ai du mal à un peu à voir. C'est comment vous avez pu évaluer à peu près le potentiel de vente, sachant justement qu'il n'y avait pas que les gens avaient perdu la culture d'aller à la ferme chercher leurs produits, etc.
Et justement, j'ai fait une étude de marché. J'ai été sur un marché et j'ai posé des questions aux gens. Donc on a fait 100 personnes et on leur a dit, s'il y a un producteur qui vient, donc élevage de chèvres, est-ce que vous seriez prêt à consommer du fromage, hein? Donc après, des gens qui étaient attitrés à leur consommation, ils ont dit, non, nous on a l'habitude, supermarché, machin. Donc voilà. Mais
t'as rencontré d'autres gens.
Mais il y avait quand même une certaine envie de découvrir. Et je le vois quand je vois les gens qui viennent sur l'élevage, quoi.
Oui, parce que voilà, on peut le dire, en fait, je crois que c'est les mercredis, tu fais les journées portes ouvertes.
Non, c'est les jours d'ouverture.
C'est tous les jours d'ouverture.
Voilà, mercredi, vendredi et samedi, les gens peuvent venir voir l'élevage de chèvres, sauf du 15 janvier au 15 mars, où là, comme on est un peu en dormance, les chèvres, elles,
donc,
y a pas
quand
de lait.
Quand tu dis qu'ils peuvent venir voir, donc en fait, souvent, on voit des familles, ils viennent avec les enfants.
Ils caressent les chèvres, ils voient la traite. Ils peuvent même voir le matin, s'ils passent le matin dans la fromagerie, ils peuvent voir en fait la transformation fromagère qui est faite dans le labo, parce que j'ai mis des fenêtres à disposition.
Oui, voilà, en fait, ce sont des grands panneaux transparents, on peut voir.
Où on voit en fait ce qui se passe à l'intérieur des locaux. Et ça, les gens apprécient beaucoup, quoi.
Voilà, comme les flics dans les téléfilms, c'est pas mal, on voit tout ce qui se passe.
Mais c'est un projet quand même assez onéreux parce que là, je suis partie, enfin, j'ai des emprunts sur le plus gros, il est sur 20 ans. Bon, en gros, un projet comme ça, c'est 350.
Alors on l'a compris, même Jacques Chirac, pour aller donc chez Alexandra, voir les chèvres, etc., c'est l'intérêt, c'est de rapprocher le consommateur du producteur ou le producteur du consommateur, enfin je sais pas, c'est comme vous voulez.
Je sais pas pourquoi tu m'as envoyé notre pauvre Jacques Chirac.
Il me semblait qu'il avait une certaine attirance pour le milieu agricole.
Complètement, c'est vrai.
Derrière ça, c'est vrai que quand elle explique les enfants qui vont sur l'exploitation agricole pour rencontrer les chèvres, Moi, je suis allé à Cerza, dans un zoo. Et qu'est-ce qu'on croise dans un zoo? On croise des hippopotames, des zébus, des zèbres. Et on croise aussi des chèvres. Et je pense qu'à un moment, c'est aussi intéressant pour les enfants de... Bah, faire un petit peu la différence entre des animaux exotiques. Alors, je ne sais pas s'il y a un gros intérêt à aller dans les zoos, mais bah, voilà, la chèvre, c'est un animal de chez nous. Quoi. Et bah, c'est bien de pouvoir le rencontrer.
Pour moi, c'est de la sensibilisation, tout simplement. Après, on voit dans tous les produits de consommation, même si on sort de la nourriture, des fois, on ne sait même pas d'où vient le produit, par qui il est fabriqué, ou etc. Et là, quand le fait d'emmener les enfants et voir des animaux, bon, bah, comme tu dis, les chèvres, bah, c'est sympathique, etc. En plus, tu vas voir les chevreaux, etc. Bah, c'est tout mignon, tout plein. Tu vas avoir une éducation auprès de l'enfant qui va s'approprier en fait la chose et naturellement après il pourra faire la différence entre les différents produits.
C'est pas non plus une visite d'un parc animalier avec un goûter, avec une tartine au fromage de chèvre.
Non, il n'y a pas vraiment, de prix d'entrée là. C'est vraiment, tu viens dans la ferme, tu vois et tu peux tout voir. D'ailleurs même elle le dit, même son labo etc. Bon par contre elle fait pas rentrer les gens dans le labo parce que pour des principes d'hygiène, parce que quoi qu'il arrive, elle fait un produit de qualité et il faut respecter les normes, etc. Mais tu as une vitre, tu sais, comme dans les dans les téléfilms avec les flics où tu vois derrière. Ouais, mais oui, mm-hmm. Tu peux voir derrière la vitre, tu peux voir le processus, etc. C'est franchement, c'est super, ça vaut le coup. Et tous les jours, dès qu'elle produit, tu peux y aller avec ta famille, enfin pas forcément avec ta famille, même tout seul. Tu peux voir le métier en marche. Il y a autre chose aussi que je voulais dire, c'est que dans ce type de choses, on pense toujours que la qualité a un prix. Et d'ailleurs, elle le revendique parce que c'est un coût, c'est un investissement. Mais bon, il faut le savoir que ce sont des gens passionnés qui ne comptent pas leurs heures. C'est une passion, mais finalement, ce coût, il n'est pas exorbitant. Et on se rend compte finalement qu'il est même concurrentiel face à un type de notre type de distribution, qui est la grande distribution, et on trouve ces fromages frais, par exemple, au même prix que le prix moyen qu'on trouve dans le grand commerce.
Le petit Billy.
Voilà. On va l'écouter là-dessus.
Donc pour revenir sur les prix, justement, pour revenir un petit peu sur le sujet de la distribution,
oui.
Donc le Cogéen, tu as dit 5 euros, à peu près, quand on vient chercher à la ferme. Mais donc, par exemple, aussi, tu fais des fromages frais, comme un peu ce qu'on peut trouver en supermarché, là, le petit Billy, etc.
Oui, les crottins.
Les crottins.
Oui.
À combien ça, tu les fais, ceux-là?
Donc, alors, les crottins, ils sont à 2 euros, sachant que les frais...
2 euros à la ferme.
Voilà, à la ferme, et 2,20 euros sur les marchés.
2,20 euros, ouais. C'est pas cher, ça, parce que, bah après, étonnamment, tu fais un prix un peu de ce qu'on trouve dans les supermarchés.
Oui, sachant qu'il y en a toujours qui diront que c'est trop cher, quoi.
C'est vrai, il y en a qui disent que c'est trop cher. Oh la vache.
Mais c'est...
C'est
la société qui veut ça. Après, justement, il faut se démarquer. Il faut leur dire que, voilà, un fromage, avant qu'il soit moulé, il faut alimenter les chèvres, traire les chèvres, mettre le lait dans des bacs pour qu'il caille. Après, il faut mouler, il faut retourner le fromage, et après, on peut le mettre à vendre. Donc, tout ça, en fait, les gens, s'ils oublient en fait toutes les étapes, bah, ils n'ont pas de fromage. Donc ça, c'est important de leur faire comprendre que oui, il vaut peut-être 2 euros, mais derrière, il y a une charge de travail. Et pour qu'on puisse gagner notre vie en tant qu'éleveur, bah oui, on met des prix. Mais voilà, de ma première année à ma deuxième année, j'ai pas augmenté
en fait,
mes tarifs.
Parce que moi, je trouve ça un peu étonnant de dire que c'est un peu trop cher, parce que pour moi, c'est pas plus cher que ce qu'on trouve dans les supermarchés. Par contre, peut-être que les gens pensaient trouver encore moins cher parce qu'ils allaient à la source, à la ferme.
Ouais, mais si vous comparez après le poids du fromage en général.
Parce qu'ils se disent, ouais, le supermarché fait sa marge en vendant ce prix-là, alors que si je vais à la ferme, c'est ça en fait qu'ils pensent.
Enfin, le supermarché fait sa marge parce qu'en fait, auprès de l'éleveur, ils insistent à la baisse du prix.
Oui, ils imposent à l'éleveur en tête
l'éleveur.
Travail.
Parce que.
Est-ce que tu peux vendre tes fromages dans un supermarché?
Oui. Ouais. Oui, mais derrière, pas au même prix.
Voilà, toi ça t'intéressera
non.
pas du tout.
Voilà, j'ai été contacté déjà par deux grandes surfaces.
Ça changerait le corps de ton métier, enfin voilà. Tu seras obligé de devenir producteur de lait.
Industriel, et tout ça, ils m'ont appelé en disant oui, mais vous savez, si vous avez plus de fromage et si vous n'arrivez pas à les écouler, je leur ai dit ne vous inquiétez pas, je vais faire en sorte que je vais me débrouiller pour les vendre, quoi.
Oui, voilà.
Donc, faire des nouveaux marchés fermiers, ça c'est le dimanche. Mais après, c'est faire découvrir aussi aux gens quelque chose de nouveau. Il y en a encore qui me disent il y a une chèvrerie à Cogé.
Ouais.
Oui, vous connaissez Cogé? Oui, je connais Cogé depuis une quinzaine d'années. Mais nous ne savions pas qu'il y avait une chèvrerie. Et bien, je leur dis venez voir.
Voilà.
Et les gens, en fait,
venez
après, sont contents. Et il y en a qui habitent même des fois entre 3 et 5 km, ils ne savent toujours pas qu'il y a une chèvrerie ici. Donc, il y a encore à travailler
et
sur la clientèle.
Toujours. Oui, des fois c'est dur même à faire juste bouger les gens vraiment juste tout autour.
Voilà. Mais ça va venir. Les gens après, il faut qu'ils trouvent leur rythme et ça se passe bien. Enfin après, une fois qu'ils sont venus, nous on a fidélisé des clients de Rouen qui viennent toutes les 2-3 semaines. Ils viennent.
Ah c'est dingue ça. Ouais. Ah ouais quand même, ils font des
surtout
bornes.
Rouen, je n'y pensais pas les premières années.
Ah bah
hein.
Ouais, tu m'étonnes. Ouais.
Du tout.
Ah ouais c'est.
Voilà.
Et ah donc il y a vraiment tout dans les comportements des gens, des gens qui viennent.
Voilà. Parce qu'ils ont trouvé un argument.
Alors Kevin, on l'a compris, hein, le producteur, donc là Alexandra, se réapproprie pleinement le fruit de son labeur. Hein. On est loin donc du fonctionnement capitalistique, etc.
Bah c'est ça en fait. Tu dis les. Ouais, franchement, tu dis les bons termes.
Hein, on supprime les intermédiaires pour maintenir la qualité.
Ouais, on supprime les intermédiaires, mais je crois vraiment qu'il y a une philosophie de fond là-dedans, parce qu'il y a plein de gens qui font des choses qui... Tu vois, même t'en parlais, Fred, au niveau des fruits et légumes, sur les marchés, c'est pas forcément que t'es au marché que tu trouves les meilleurs fruits et légumes. Il y a des revendeurs, en fait, tout simplement. Parce qu'on l'a pas dit, mais elle est au label Bienvenue à la ferme, et c'est un label qui permet, en fait, aux gens, qui garantit que le produit fini... depuis la source, il est fait par la même personne et ça c'est important et c'est un réel gage de qualité pour le consommateur enfin, et pour tout le monde, pour la société.
Oui, et puis le prix en plus, c'est un prix qui va dans la qualité du produit et qui va pas dans le transport en camion.
Et au final, c'est le même prix que tu as au supermarché.
Allez, on fait une petite pause musicale et on se retrouve après avec Alexandra.
Toujours dans le local.
C'était un groupe hébroïcien, hein, il faut se le dire. C'est Moyoshi qui chante, à Kakpo. Allez, on continue avec les biquettes Cogéen. Kevin ?
On continue. Alexandra va nous parler justement qu'on peut trouver d'autres produits chez elle, car en fait, elle essaye de contribuer à un regroupement en fait, de producteurs du même type qu'elle pour pouvoir trouver chez elle d'autres produits comme le vin et autre chose.
Vous écoutez Principe Actif, un art de vie.
Voilà, je veux rester, moi, naturel, je respecte le cycle. Enfin voilà, puis je l'explique très bien aux clients. Les clients, ils savent très bien comment je fonctionne sur mes animaux et sur mon fromage, ils le savent. Hein. Donc moi, je veux rester comme ça. J'ai pas besoin d'une marque ou d'un logo en plus. Voilà, j'ai le bienvenu à ferme, il me suffit.
Ouais.
Voilà, le bienvenu à ferme, on est producteur du terroir, on évolue avec nos productions qu'on produit sur la ferme.
C'est super.
Et voilà, je trouve ça
et
naturel.
En plus, et donc les autres produits qu'on trouve, parce que donc pour expliquer, il y a la petite boutique qui est adjacente, au Biquette. Et donc c'est là qu'on achète donc tes fromages, et on trouve aussi d'autres produits de d'autres producteurs.
Voilà.
Qui sont les producteurs du coin.
Oui, ah bah oui, c'est que des producteurs.
Donc les fraises, la Mara des Bois.
Ah non, il y a juste les, ouais, les avec le vin, parce qu'en fait c'est.
Oui, il y a du vin maintenant.
Ouais, c'est deux producteurs que je connaissais en fait. Parce que j'ai vadrouillé quand même dans la France. Bon
procédé,
voilà.
Quoi.
Et donc j'ai un producteur qui est de la région de Bordeaux et un autre producteur qui est de la région de l'Anjou, avec qui je travaille au niveau des vins, parce que bah, en Normandie, les vins, c'est pas très connu. Mais avec le fromage, c'est bon.
Ouais,
donc
oui,
c'est
oui.
pour ça que je voulais oui, du oui. vin. Donc sinon, enfin, hormis le vin, les autres producteurs, donc les glaces. Donc glaces fermières.
Oui, des glaces fermières,
voilà,
oui,
donc,
avec de goût de
glaces à la
sorte.
Ferme.
Ouais.
Donc ça, ils sont vers la Baronnouche, Rugle.
Ok.
La Neuvlière.
La Neuvlière, oui.
Bon, ça va mieux.
Voilà,
là.
Ça va mieux.
C'est
pour
voilà.
moi.
Donc, par là-bas.
J'étais perdu.
Ensuite, j'ai les fraises. Donc Maxime Sampère, c'est un jeune installé avec lequel j'ai fait mon parcours d'installation aussi, parce qu'on avait des formations à faire. Et lui. Il est de Romilly-la-Putney.
Ok.
Tilleul d'Amagnès.
Non, moi je connais pas.
Beaumont-le-Roger.
Beaumont-le-Roger, ouais.
Voilà.
Okay, le
en
coin.
Gros,
quoi.
On va
en gros, ouais.
Dans ce coin-là. Enfin, en fait, c'est entre Beaumont et Conches, à peu près, hein, pour aussi faire plus gros. Ensuite, j'ai les œufs. Pareil, c'est un jeune installé que j'ai. Lui, par contre, je l'ai rencontré en formation hygiène. Voilà, j'avais envie d'avoir un produit d'appel facile pour les clients. Donc l'œuf, œuf plein air par contre, pareil, on respecte l'animal. Donc
ouais,
voilà,
ouais.
On laisse pâturer, on laisse voler ses propres ailes, on va dire. Donc pareil, j'ai travaillé avec lui. Donc lui, il est des Andelys. Voilà, on est parti un peu plus loin. Et après, j'ai donc là, ça fait pas très longtemps que je fais cidre, jus de pomme, avec Dominique Bautier, donc qui est à côté, Ferrière au Clocher.
À Ferrière au Clocher,
voilà.
Ouais.
Et qu'est-ce qu'il y a d'autre je crois que c'est pas mal, on a fait le tour, je crois.
Ouais, bah c'est pas mal.
Ouais. Ah ouais. Donc voilà. Et on peut, j'aimerais développer un peu plus parce que bon, on l'a pas trop développé. Il y a de la viande en caissette d'agneau qui est possible à faire aussi sur la ferme. C'est sur réservation, donc on n'a pas eu vraiment de réservation. Donc j'aimerais bien me développer l'année prochaine, ouvrir un cahier.
Développer voir. L'offre. Pour
ouais, l'offre pour que les gens soient contents. Donc ça, par contre, ils sont vers Passy-sur-Eure.
Okay.
En agneau, ils seraient sur Passy-sur-Eure. Donc voilà. Enfin, voilà ce qu'on peut trouver chez moi à la Biquette Cogéenne.
À la Biquette Cogéenne.
De mi-mars à mi-janvier.
Voilà. Bon bah c'est super, merci Alexandra pour cette interview.
De rien, avec plaisir.
J'espère qu'il y a plein d'auditeurs qui viendront te découvrir ici.
Ouais, j'espère
bien. À Cogéenne, faut pas hésiter, hein. C'est un petit peu caché, hein, juste derrière
les pompiers.
Il y a un petit panneau derrière. Je l'ai déjà dit, je crois, mais il faudrait un plus grand panneau, je crois.
Ouais, bah faut demander la DDE qui nous accepte nos panneaux.
Alors un grand merci à Alexandra pour sa disponibilité, toutes ces informations, n'est-ce pas Kevin?
Et oui, alors justement, ça sera une interview que vous pourrez retrouver l'intégralité de cette interview sur notre site internet, sur notre page de notre émission Un air de vie. Et donc, c'est une productrice fromagère que vous pouvez retrouver donc chez elle à Cogéenne, et aussi vous pouvez la trouver sur le marché d'Evreux, en face de la, on va dire la supérette, pour pas dire son nom. Voilà, les jours de marché à Evreux.
Place du marché. Alors, c'est un exemple de circuit court. Il en existe d'autres possibilités de circuit court, n'est-ce pas Fred ?
Oui, il en existe. Nous, en choisissant de faire cette émission, on s'est naturellement dirigé vers ce qu'on connaissait. Donc, on est allé vers la MAP d'Evreux, on est allé vers la Biquette Cogéenne. Dans les deux cas, on a été bien accueillis, bien reçus. On a rencontré vraiment. Enfin, je pense que c'est vraiment une affaire de rencontre, et je pense que
ouais, complètement. C'est vraiment.
Et je
des
pense
échanges.
Que dans cette démarche de filière courte, avant tout, c'est ça. Je veux dire, on peut pas dire allez là, c'est bien ou allez. Ce qui est important, je pense que c'est qu'il y a une autre démarche de consommation avec des rencontres, et puis avec des gens qui vont nous convaincre et des gens qui vont moins nous convaincre. Nous, on a été relativement convaincus par les gens qu'on a croisés, avec un discours, avec. C'est des producteurs, c'est soit des vendeurs, mais c'est des gens qui, enfin, non, qu'il alors, y a de la richesse.
On a abordé la question, je dirais, du point de vue du consommateur individuel, mais la question de l'accès à ces circuits courts, à ces producteurs locaux, se pose aussi également pour les collectivités, pour les restaurants scolaires, etc. On sait que, bon, aujourd'hui, on essaie de trouver tous les artifices, tous les dispositifs réglementaires possibles, parce que le code des marchés publics, le fameux code des marchés publics et la réglementation européenne ne sont pas toujours adaptés, puisque, bon, il y a toujours ces histoires de mise en concurrence, on ne peut pas privilégier, on ne peut pas instaurer un critère géographique. Mais bon, il y a des producteurs qui s'organisent, qui constituent, qui créent des plateformes et qui se mettent en concurrence pour ces collectivités. Et donc, ça permet à des cuisines collectives
d'accéder. Souvent, ça venait même de l'initiative du cuisinier, des cuisines collectives, d'aller chercher les bons produits parce qu'ils ne voulaient plus accepter de... Un peu comme on voit les producteurs, certains producteurs qui n'acceptent plus de recevoir les préparations toutes faites pour leurs animaux et ainsi de suite.
Et c'est une autre philosophie parce que c'est vrai qu'on n'est plus dans une démarche frites, steak et radiateur à fond pour ne plus avoir de bruit dans la classe l'après-midi. c'est de la carotte râpée, c'est des choses comme ça. Donc, il faut que les élèves aussi y participent. Et dans certains endroits, ça prend quoi.
Bah, ça essaye de prendre, mais en même temps, c'est toujours un peu le serpent qui se mord la queue. Actuellement, dans toutes les collectivités, on essaye de dire on va mettre plus de bio. Je crois qu'en 2020, il faut qu'il y ait 20 ou 25% de bio dans les cantines. Et actuellement, toutes les personnes qui sont responsables disent oui, mais c'est pas possible, il n'y a pas assez de production, tout ça. En fin de compte, il va falloir que actuellement, les producteurs s'adaptent aussi à la demande. La demande, c'est les supermarchés, donc ils produisent pour. Et
mais, enfin, mais les choses vont changer. Tonton Fred, tu nous dis toujours que le bio, ce n'est pas forcément du circuit court.
Ah oui,
bio peut venir du Chili.
Et justement,
il
faut relativiser, exactement. Mais là, justement, parler des circuits courts et prendre du bio qui vient de je ne sais pas d'où et qui est venu en avion, c'est complètement absurde. Et en plus, je pense qu'aujourd'hui, on a entendu un cas concret qui permet de voir qu'aujourd'hui, on peut avoir des agriculteurs qui sont dans une agriculture dite conventionnelle, mais du moment qu'ils font bien leur boulot, ils n'ont pas besoin de la charte du bio. Et d'ailleurs, la charte du bio n'est pas suffisante pour donner un produit de qualité. Et il y a des gens qui sont certifiés bio, mais finalement, qui vont utiliser... On n'a pas pu l'entendre, mais Alexandra nous explique que certains fromagers utilisent des ferments, donc on va être une uniformisation de leur lait, donc finalement de leur produit fini, alors qu'ils sont la charte bio. Et au final, elle n'est pas bio, elle, alors qu'elle est plus naturelle
mais
certains
Kevin et Fred,
fromagers.
Je sais que vous adorez les circuits courts, mais la limite à ces circuits courts, est-ce que c'est pas justement l'urbanisme les villes sont en train de manger sur les terres agricoles si on pousse de plus en plus loin les installations agricoles.
Alors en même temps, en France, il reste quand même pas mal de surfaces cultivées.
Ouais, mais en 10 ans, on a perdu un département. Moi, c'est ce qu'on me dit. Quand je lis les publications de l'ADEME.
Ouais, mais même il y a des manifestations.
Enfin, il reste de la place pour la production marécage.
Les chiffres de l'ADEME, tu les as.
Voilà, je suis abonné, moi.
Non, mais de toute façon, le problème n'est pas clos. Je pense qu'il y a des choses à faire. Moi, alors c'est vrai qu'au-delà de la question du bio ou pas du bio, ce qui m'intéresse, et c'est un mot que j'aime bien dans l'agriculture, c'est ce qu'on appelle l'agriculture raisonnée. C'est-à-dire que des gens qui produisent en se posant des questions sur pourquoi on produit, pour qui et qu'est-ce qu'on fait. Et je pense que vraiment le fait d'aller rencontrer les agriculteurs sur leur exploitation, au-delà de comment ils produisent, le fait de rencontrer l'acheteur, eh ben ça les responsabilise. Moi, je me souviens d'un reportage que j'avais vu qui s'appelait « La mort est dans le pré », où un monsieur produisait des oignons d'une manière complètement expansive. Et une fois, il s'était fâché après sa femme parce que sa femme avait osé prendre un oignon qu'il produisait alors que ce n'était surtout pas ce qu'il voulait manger. Et la question, elle est là. Et je pense qu'en rencontrant les gens, le fait que le producteur ait ses consommateurs face à lui tous les jours, eh ben, je pense
Ça veut dire que je ne peux pas avoir des tomates toute l'année et je ne peux pas avoir des pommes parfaitement finies. Brillante là, j'aime bien
c'est
quand t'as
pris
sous le spot. Moi j'aime bien quand t'as pris sous le spot.
On peut pas avoir
là.
Une cuillère dans la bouche d'argent tout le temps. On
mais
peut
je
pas
pense
être
de toute façon qu'à un moment ou
un
autre, on pourra avoir les deux.
D'accord. Alors tu avais des petites annonces, Fred, pour.
Voilà,
pour
je voulais finir cette émission par quelques pistes à suivre. Et c'est vraiment, alors c'est pas des conseils, on fait pas du prosélytisme, on vous invite pas à aller voir. C'est juste, moi je pense que cette affaire-là, c'est une affaire de rencontre et ce qu'on vous invite, c'est à faire des rencontres. Donc, vous pouvez vous rendre à la MAP 27, c'est une association, on en a expliqué les intérêts, les limites la dernière émission. C'est toujours intéressant de les rencontrer et c'est toujours intéressant de s'inscrire dans cette démarche-là si on a la volonté. On peut aussi aller voir Madame Zoutard à la vente à la ferme, à Buis-sur-Danville, je ne me tromperai pas deux fois de suite. On peut bien sûr aller voir notre ami qui produit avec ses biquettes. Demain matin, le 9 mars, à Jouy-sur-Eure, dans le cadre de Bienvenue à la ferme, il y a un marché des producteurs qui regroupe 4 producteurs, producteurs de pommes, producteurs de, euh, de, de cidre, de confiserie, de jus de pomme, de poire, de fruits du verger.
Moi aussi, j'ai une petite annonce.
Non, je vais juste finir.
Oui, vas-y, Fred.
On a aussi l'occasion d'aller voir, par exemple, les cochonailles de Jérémy à Grosseuvre. Et il y a aussi d'autres moyens de rencontrer
Et la biquette Cogéen. Okay.
Moi, j'ai une petite annonce très rapidement, parce que le temps passe. Jérôme. C'est ma petite Iris qui me l'a soufflé. Ce matin, on allait à l'école, on a pris la rue Pierre de Ronsard. Et puis, sur la rue, il y avait plein de vers de terre qui faisaient leur migration. Elle dit, regarde, papa, tu pourras en parler.
La migration des vers de terre.
Ça ferait une sortie nature. Voilà, les gens pourraient leur dire qu'ils viennent voir les vers de terre qui traversent. Voilà.
Alors moi, je la déconseille.
On les aime pas, les vers de terre.
Okay. Bon, on se retrouve le deuxième vendredi du mois. Hein.
Voilà, comme
et
d'habitude.
Et donc, ça fera quoi? Bon, je sais pas. Bon, on regarde le calendrier grégorien.
Entre
nous. Et puis voilà. À bientôt.
Bah oui, à bientôt.
À bientôt,
merci, Gonzalo. Qu'est-ce qu'il y a prochainement?
Merci.
Et qu'est-ce qu'on écoute prochainement?
Eh bien, on enchaîne directement avec le Jazz à part, suivi de l'Octroi Acoustic Club et suivi enfin, pour terminer, de Air Jam.
Et demain, un privé à Babylone.
C'était un air de vie, une émission proposée par le trio JFK sur Principe Actif. Un air de vie.